France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quelle réponse judiciaire pour les violences faites aux femmes et surtout quels moyens pour y mettre un terme? Alors que les violences conjugales restent un fléau qui coûte la vie à près de 150 femmes chaque année en France, qu'une victime de viol sur 10 seulement ose porter plainte et que seul 1% des violeurs sont condamnés, on voit que depuis deux mois, depuis que l'affaire Weinstein a éclaté, les choses sont en train de bouger. La parole des femmes s'est libérée, les plaintes pour faits de harcèlement ou de violence ont bondi. L'exécutif a promis d'agir, mais comment faire pour que tout cela ne soit pas vain, pour que les beaux discours ne reste pas lettre morte. On va notamment s'interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre, moyens humains et matériels, pour les forces de l'ordre, pour les associations qui œuvrent dans ce domaine et pour la justice, mais aussi quelles réformes législatives s'il y a lieu de changer la loi sur certains points. Avec nous pour parler de tout cela ce soir, Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Bonsoir Marilyn Baldeck.
Bonsoir.
Sandrine Rousseau, ex-secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, qui vient de créer l'association Parler et qui raconte dans un livre qui s'appelle Parler également pourquoi elle a pris la parole pour dénoncer les agissements de Denis Baupin, plainte classée sans suite pour cause de prescription. Bonsoir Sandrine Rousseau.
Bonsoir.
Et évidemment, toujours à nos côtés, un homme qui depuis plus de 15 ans, 20 ans, que devrais-je dire, lutte au niveau judiciaire contre les violences conjugales et intrafamiliales, Luc Frémiot, substitut du procureur général à la cour d'appel de Douai. Rebonsoir monsieur Frémiot.
Bonsoir madame.
Pour interroger tous nos invités, franceinter.fr ou bien le standard 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Lyon. Pauline est en ligne. Bonsoir Pauline, bienvenue
bonsoir.
À vous.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes à l'antenne.
Oui, alors moi je suis en fait juriste dans une association, donc le CIDFF, donc c'est une structure donc d'accueil de femmes victimes de violences conjugales. J'accueille donc notamment nombreuses femmes victimes de violences avant ou en fait après le dépôt de plainte. Et sur cette question, en fait, je constate plusieurs problématiques. Dans un premier temps, notamment l'accueil en commissariat ou en gendarmerie, qui s'avère encore compliqué et qui facilite pas du tout la démarche en fait au dépôt de plainte pour ces femmes. Ce que je vois aussi, c'est que lorsqu'il y a eu dépôt de plainte, il s'avère que la relation d'emprise, notamment avec l'auteur, elle disparaît pas comme ça. Et ça conduit notamment de nombreuses femmes à retirer leurs plaintes. Et ce mécanisme, il n'est pas forcément bien pris en compte encore par la justice. Et puis, au niveau des sanctions, je suis souvent un peu déçue. Je vois beaucoup de rappels à la loi ou des sursis pour l'auteur parce que ils n'avaient jamais fait avant l'occasion de condamnation. Donc voilà, ce qui est très compliqué à vivre, notamment pour les victimes.
Merci beaucoup Pauline pour ce témoignage, avec déjà beaucoup de questions que vous posez. On va voir si nos invités partagent votre point de vue. Qui veut peut-être réagir la première, Marilyn Baldeck? Vous aussi, vous représentez une association confrontée au même questionnement que Pauline. Vous retrouvez ce que vous ressentez vous-même?
Alors, c'est sûr que c'est pas une légende, en fait, que c'est compliqué pour les femmes de porter plainte pour les violences dont elles sont victimes. Et effectivement, quand on travaille dans une association, on est aux premières loges pour recueillir leurs doléances sur la manière dont leur parole a été ou plutôt n'a pas été prise en compte par les services de police. Que ce soit parce que pour des raisons matérielles, moi j'ai vu des dépôts de plaintes qui étaient faits dans des salles où il n'y avait pas de confidentialité, où on entendait ce que disaient les autres et donc c'était pas possible pour les victimes d'être en sécurité, de pouvoir dire tout ce qu'elles avaient à dire, mais aussi parce que on va leur demander des choses qui, quoi qu'en disent les policiers, ne sont pas utiles à la procédure pénale, parce que c'est souvent comme ça qu'ils justifient en fait des interrogatoires qui sont très musclés. Donc d'ailleurs je fais un lapsus révélateur, un interrogatoire plutôt qu'une audition. Enfin, voilà, moi, on a encore eu récemment des, pour un viol par fellation, pourquoi vous l'avez pas mordu mais si vous l'avez pas mordu, c'est que vous l'aimez, peut-être que vous le vouliez bien. Et en fait, là par exemple, on peut le prouver ça, parce que les questions elles sont posées noir sur blanc, elles sont écrites dans le procès-verbal. On peut démontrer que ça se passe encore.
Encore comme ça, Sandrine Rousseau, vous aussi, vous avez eu affaire à la justice et puis notamment à la police. Vous aussi, vous avez eu droit à des questions notamment la fameuse question « Comment étiez-vous habillée ?»
Oui, il y a eu cette question, mais surtout dans les témoignages des femmes, parce que moi j'ai eu des policiers qui étaient formés, donc à part cette question, j'ai pas trop de choses à en dire, mais les femmes qui se tournent vers moi aujourd'hui et vers l'association ont en effet des témoignages qui sont assez étonnants sur la manière dont on reçoit leurs paroles dans les commissariats, et notamment le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot « suspicion ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles entrent dans un commissariat pour déposer plainte, et tout au long de la procédure judiciaire, il y a une suspicion sur leur témoignage. Et ça, lors du dépôt de plainte, normalement, on n'est pas à ce stade-là. Et quelque part, les procès et les procédures sur les violences faites aux femmes se trompent. Enfin, on a l'impression, en tous les cas, qu'elles se trompent parfois de coupables ou d'accusés. Et elles se tournent vers les femmes pour essayer de comprendre pourquoi elles ont témoigné, alors qu'on témoigne simplement parce qu'on a été victime d'un fait qui est interdit par la loi. Et finalement, il n'y a pas beaucoup plus que ça à aller chercher.
Luc Frémiot.
Écoutez, je ne suis pas surpris d'entendre tout cela, parce que ça fait des années que j'entends ça. Il y a un gros problème de formation des services de police et de gendarmerie. Un problème qui est pris en compte par la hiérarchie, parce que la hiérarchie policière et de la gendarmerie est très attentive à ce type de choses. Le problème, c'est les gens qui sont sur place, à la base, les plantons, qui sont parfois dans des états difficiles à gérer, parce que quand vous avez une vingtaine de plaignants qui sont là, et dans la queue, vous avez une... plaignante pour des violences faites aux femmes, comprenez bien qu'on ne peut pas la recevoir comme il le faut. Il faut donc opérer un tri dès le départ qui permettrait un accueil personnalisé. Et c'est dans ce sens que la proposition de Madame la Garde des Sceaux sur ces pré-plaintes qui pourront permettre justement un rendez-vous personnalisé est important.
Luc Frémiot, on entendait aussi ce que disait Pauline par rapport aux sanctions. Elle trouvait que c'était un peu léger, rappel à la loi, sursis.
Oui, alors écoutez, moi je pense qu'il faut faire un distinguo entre la gravité des violences. Toutes les violences sont graves, hein, je suis tout à fait d'accord pour le dire. Mais il faut qu'on sorte de cette idée que la sanction de la prison est quelque chose qui va permettre une fois pour toutes de dissuader l'auteur de continuer. Il faut absolument prendre en charge les auteurs dès les premiers coups, dès la première gifle. C'est pour cela que les femmes doivent porter plainte tout de suite, avant qu'on s'installe dans un processus de violence, dans une spirale qui va les unir tous les deux. Il y a un dénominateur commun, c'est le déni. La victime dira qu'elle n'est pas victime parce qu'elle ne peut pas supporter cette idée. Et l'auteur dit « c'est ma femme qui me pousse à être violent ». Il faut donc le plus vite possible prendre en charge ces auteurs, les amener aux mains de psychiatres et de psychologues pour les faire réfléchir sur les conditions dans lesquelles ils passent à l'acte, de manière à leur donner des clignotants qui permettent ensuite de quitter la scène de violence.
On repart au standard de France Inter. Je sais, vous avez plein de choses à dire, mais on a le temps jusqu'à 20h. Cette fois, Pascal nous appelle de Nantes. Bonsoir, Pascal.
Oui, bonsoir.
Merci de nous appeler. Bienvenue.
Merci de prendre mon appel. Voilà, je vous appelle pour une question très 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 concrète. Quelle solution existe-t-il pour une personne, une jeune femme victime de violence, en situation de danger grave et imminent, et très concrètement, que peut-on faire? En dehors du 115, en dehors des institutions telles que celles dans lesquelles elle est déjà suivie, pour une personne qui est en une situation de grande précarité sociale, médicale, psychologique, qui est enceinte de 4 ou 5 mois, qui refuse d'aller à l'hôpital, elle n'a plus de CMU, qui refuse de porter plainte en lien avec le passé judiciaire de son conjoint, je mets des guillemets à conjoint, voilà, qui est sous emprise psychologique d'un homme violent, dans un contexte, encore une fois, de précarité sociale, avec des liens avec l'alcool, la toxicomanie. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement?
Eh bien, écoutez, on va poser la question à Luc Frémiot, qui est avec nous.
Il faut d'abord le diriger vers une association d'aide aux victimes. C'est très important. Il y a tout un travail qui est à faire pour l'amener justement à déposer plainte. Ensuite, il faut porter cette affaire à l'attention du parquet, du procureur compétent. Il suffit d'écrire. Vous savez qu'un procureur de la République peut se saisir d'une affaire sans plainte. Oui, mais il est arrivé très souvent, vu les situations d'urgence et de gravité, de me saisir alors que la victime n'avait pas déposé plainte. C'est une possibilité qu'il faut surtout pas négliger.
Marilyn Baldeck.
Alors, moi, je pense qu'on peut jamais rien faire sans le consentement des principales intéressées, des victimes, et que pour les amener à porter plainte, il y a tout un travail de mise en confiance, de préparation de la procédure, que les associations savent très bien faire, mais encore faut-il qu'elles en aient les moyens. Ça, c'est la première chose. Après, dans ce qu'a dit cet auditeur, moi, j'entends deux choses, danger grave et imminent. Et là, pour moi, ça déplace un peu le sujet. C'est-à-dire que s'il y a un danger grave et imminent sur la vie de cette femme, ou sur sa santé, là je pense que dans certains cas extrêmement graves, on peut s'affranchir de son avis pour alerter les services de police, le procureur, et je dirais même en urgence en fait les services de police, parce que s'il faut écrire au procureur pour attendre qu'on ait une réponse, le danger peut être réalisé entre-temps. Donc voilà, dans des cas très particuliers où on sait que il va y avoir un passage à l'acte, il faut réagir, c'est sûr.
Alors une question, parce que vous disiez il faut avoir les moyens d'agir. Vous êtes délégué général de l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Ça fait très longtemps que votre association s'occupe de cette question. Il y a eu plus de plaintes, plus de demandes en votre direction au moment de l'affaire Baupin. J'imagine qu'il y en a eu aussi ces deux derniers mois.
Ça fait plusieurs années en fait qu'on est en asphyxie totale en fait par rapport aux demandes que les femmes nous adressent et que on n'a pas de solution de rechange en fait à leur proposer sérieuse, c'est-à-dire de ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire d'un accompagnement qui soit pluridisciplinaire et qui soit, pour ce qui nous concerne, vraiment juridique, pointu sur la question des violences sexuelles au travail. Donc la VFT reste la seule association qui est spécialisée sur ce terrain en France. On n'a pas eu d'augmentation de moyens et on n'en a pas eu non plus en fait depuis deux mois et les clignotants sont pas tout à fait au vert en fait. Pour ça, c'est extrêmement difficile en ce moment, puisque sur 10 femmes qui demandent à ce qu'on ouvre leur dossier à l'association pour être accompagnées dans leur procédure, il va falloir qu'on dise non à 7 ou 8 d'entre elles.
Alors ça, c'est votre cas à l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Il y a aussi le 3919 qui est débordé d'appels et qui, pourtant, c'est un numéro auquel les autorités disent qu'il faut téléphoner. Cette pauvre association, elle non plus, elle n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire, Sandrine Rousseau, pour que les beaux discours ne restent pas lettre morte? Il faut donner les moyens aux associations.
Alors, pour les associations sont contactées assez souvent en fait par les victimes qui, en général, une fois sur deux, contactent une association. Alors, il y en a une sur deux qui ne le fait pas, mais quand même. Et donc, c'est un premier contact, et c'est un premier contact qui est très important parce que c'est le contact qui va permettre de mettre en confiance et de commencer une procédure vers la justice et vers le dépôt de plainte. Parce qu'en effet, on dépose pas plainte comme ça. Enfin, c'est pas simple de déposer plainte.
On n'est pas un professionnel de la plainte.
Mais en plus, il y a plein de femmes qui ne savent même pas mettre de mots sur ce qu'elles vivent parce que sous emprise, parce que ne connaissant pas la loi sur le bout des doigts et on ne leur reproche pas, évidemment qu'il faut des associations qui fassent médiation jusqu'à la justice. Aujourd'hui, les associations, et grâce finalement à ce mouvement de fond que l'on observe de dénonciation des violences, les associations sont totalement débordées. Donc on ne peut pas continuer avec juste les mêmes moyens que les années précédentes. Il faut en effet donner un coup de pouce important à ces associations parce qu'elles jouent un rôle décisif. La VFT joue un rôle décisif.
Vous, dans votre affaire, vous êtes allée voir Marlène Baldeck. Elle vous a épaulée.
Bien sûr, et ça a été très important parce qu'elle a mis justement une expertise juridique sur ce qui nous était arrivé et ça nous a permis de gagner en confiance et du coup d'affronter la procédure ensuite.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre parcours à vous? C'est le questionnement de l'entourage sur cette affaire, c'est-à-dire, on entendait ça tout à l'heure, mais pourquoi tu, dans un reportage qu'on a entendu précédemment, pourquoi tu n'as pas parlé, pourquoi tu n'as pas mis une baffe, pourquoi tu t'es pas défendu?
Toutes ces phrases-là font mal, mais surtout toutes ces phrases-là renvoient la responsabilité sur la victime. Et ça, s'il y a un message à faire passer ce soir, c'est que si vous entendez un témoignage, si quelqu'un se confie à vous sur des cas de violence, la première chose à faire est d'avoir des phrases positives à lui renvoyer. Merci de m'avoir parlé, bravo d'avoir résisté, des phrases qui renvoient quelque chose de positif, parce que ces premières phrases qui sont entendues sont très importantes et conditionnent beaucoup les femmes sur leur capacité après à enclencher une procédure judiciaire ou pas. Et quand on leur renvoie quelque chose de positif, elles se sentent fortes et elles se sentent en capacité d'affronter la suite, alors que si on leur renvoie la responsabilité, eh bien on rentre dans un processus de questionnement, de repli sur soi qui peut être très dangereux même.
Alors on va repartir au standard où nous attend toujours Pascal qui nous a posé cette question. Pascal de Nantes, est-ce qu'on a répondu à vos interrogations, Pascal ?
Pas vraiment, parce que j'entends tout ce qui s'est dit lors de l'émission qui est très intéressant, mais ma question elle portait sur une situation d'urgence. C'est-à-dire que, très concrètement, une jeune femme qui est en danger, qui est enceinte de 4 ou 5 mois, qui n'a pas vu de médecin depuis des mois puisqu'elle n'a plus de CMU, qui est victime de violences.
Vous voulez savoir à qui vous devez contacter ce soir, en gros, c'est
très
ça?
Très clairement,
la police et écrire au procureur.
Si elle se jette sous un train ce soir, moi je me sentirais coupable, mais en attendant,
Luc Frémiot, qu'est-ce qu'on peut dire à Pascal ?
Il faut absolument contacter rapidement les services de police. On est dans un cas d'urgence avéré. Il n'y a pas d'hésitation sur ce sujet. Et prévenir simultanément également les services sociaux pour tout ce qui touche l'aspect CMU et l'aspect sanitaire.
Et l'aspect hébergement ?
Bien sûr. Alors l'aspect hébergement...
Écoutez, avec discuter, toutes les difficultés...
C'est l'auteur qui doit s'en aller, ce n'est pas la victime.
Pascal, vous appelez la police là où vous êtes et puis vous nous rappelez d'ici la fin de l'émission si, en fonction de ce qu'on vous aura dit. Merci Pascal. On repart au standard. Carole qui nous appelle à son tour de je ne sais pas trop où. Bonsoir Carole.
Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle, je suis médecin et puis... votre émission retentit bien avec un questionnement que j'ai actuellement. Donc j'ai une expérience de médecine d'urgence, médecin légiste, et puis je fais de la médecine générale aussi. Et par rapport aux mesures qui ont déjà été prises, notamment de former des référents dans les services d'urgence ou d'essayer de faire en sorte que justement les personnes soient mieux prises en compte, je trouve que de par ce que j'ai vu et vécu, que c'est pas le bon lieu pour arriver à faire ça, parce qu'aux urgences, je pense que l'urgentiste n'a pas le temps, premièrement, et puis que du coup, il peut pas être à l'écoute de la bonne façon. Donc, de mon expérience et d'avoir vu pas mal de personnes autant aux urgences qu'en médecine légale, je me demandais, au vu de la situation actuelle, qu'est-ce qu'on attendait pour créer, en fait... une entité, une structure vraiment bien dédiée pour les personnes victimes de violences conjugales, pour qu'on ait un temps d'écoute et puis qu'il y ait une formation pour faire détecter aux médecins quand il y a violence. Parce qu'il n'y a pas que les... Alors, il y a les traces physiques, mais souvent, les premiers témoignages des patients aux urgences ne sont pas « j'ai été victime de violences de la part de mon conjoint ».
Merci, merci Carole pour... Merci Carole pour ce témoignage. On va prendre, avant de vous répondre, Isabelle, qui a une question, je pense, qui va dans la même direction que vous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Bonsoir. Allô? À vous. Vous êtes médecin, vous aussi?
Allô?
Oui, Isabelle?
Je ne suis pas médecin du tout. Justement, concernant les médecins généralistes, dire que... C'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie, c'est un médecin généraliste. J'étais donc dans un conflit en violence conjugale avec mon ex-partenaire et c'est lui qui m'a sorti d'affaire, quoi. Il a vu mon état et il m'a donné toutes les démarches à faire pour me sortir de cette affaire, puisque j'habitais chez lui, j'avais pas de domicile, donc... Il fallait absolument que je me sorte de cette histoire, quoi.
Et le médecin vous a orienté ?
Il m'a tout donné, et vraiment, je lui dois une fière chandelle, parce qu'à présent, maintenant, je revis, quoi, quelque part. Et c'est pour ça que je pense que, oui, les médecins, les généralistes, ont une énorme part de possibilités pour aider les femmes qui sont en danger, quoi. Je sais pas comment exprimer ça, mais...
Ben, vous l'avez parfaitement exprimé, Isabelle. Qui veut réagir à ce témoignage ?
Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Dans l'émission précédente, d'ailleurs, on en a discuté. Je pense que l'hôpital est un lieu privilégié pour obtenir ce type de confidence et de prise en charge. J'ai eu beaucoup de dossiers qui sont arrivés par le biais des hôpitaux. Et le médecin d'urgence a la possibilité, souvent également, d'adresser simultanément cette victime à l'aspect traumatologique, mais également vers un psychologue de l'hôpital.
Et parmi les mesures annoncées par Emmanuel Macron, il y a évidemment l'idée de permettre aux gens de déposer plainte à l'hôpital.
Et qu'à Toulouse, il y a une unité exceptionnelle qui est dirigée par un professeur de médecine, qui est une dame d'ailleurs, et qui a réussi à centraliser absolument des services de police pour prendre des plaintes, un accompagnement sur le plan psychologique, et évidemment tout ce qui concerne médecine légale.
Sandrine Rousseau.
Alors oui, l'hôpital et les médecins sont des relais et c'est vrai que les urgences sont aussi débordées, mais je voudrais juste insister sur une petite chose, c'est que j'invite les médecins qui nous écoutent à poser la question un peu systématiquement à une femme quand elle entre dans sa clientèle, enfin dans sa patientèle, de lui poser la question de est-ce qu'elle a subi des violences. Parce que les études montrent que quand on pose cette question à une femme, les femmes répondent la réalité, c'est-à-dire oui, dans une proportion non négligeable d'entre elles, et non quand ça n'est pas le cas. Et le fait qu'on ne pose pas cette question systématiquement fait qu'il y a aussi des médecins qui se trompent de diagnostic, qui qui par exemple diagnostiquent de la bipolarité ou des dépressions ou des choses ou de l'anorexie sans poser la question des violences, et on passe à côté aussi de beaucoup de cas de violence de cette manière-là. Donc vraiment posons la question systématiquement, ça fait partie de ces moyens de détection assez simples et efficaces.
Marlène Baldeck, vous qui vous occupez du monde du travail, j'aimerais bien savoir si le médecin du travail fait ce qu'il faut en général ou pas vraiment.
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin du travail est un médecin en voie de disparition, hein, concrètement, avec les réformes successives du droit du travail, et que, ben, de fait, dans nos dossiers, c'est un recours, enfin, c'est un professionnel qui est de plus en plus lointain pour les salariés, puisqu'il n'y a plus de visite médicale d'embauche, il y a presque plus de visite médicale de suivi, donc il n'y a pas ce lien privilégié qui se crée avec ce professionnel. En tout cas, de moins en moins. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Et en tout cas, pour ce qui est des violences qu'on combat à l'association, la manière dont le droit du travail est saccagé, en fait, depuis quelques années, ne nous fait pas du bien. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Parce que, par exemple, là, en ce moment, on parle de la disparition. Hein, ça fait partie de la législation actuelle, de la disparition des CHSCT. Est-ce que ça, c'est une régression?
Alors oui, c'est une régression parce que on va avoir moins de contre-pouvoirs à l'employeur dans des entreprises de petite taille. Forcément, hein, c'est très très important pour les victimes d'avoir des interlocuteurs en interne dans les entreprises que sont les organisations syndicales pour pouvoir faire valoir leurs droits. Donc si on leur coupe la tête, c'est sûr que ça fait des recours en moins pour les salariés, mais voilà, le médecin du travail, pour revenir à lui, quand les salariés arrivent tout de même à le rencontrer et qu'il est formé sur ces questions-là, comme le dit l'auditrice qui a témoigné d'avoir été sauvée par son médecin, effectivement, ça peut radicalement changer la donne, en fait, pour une salariée victime de harcèlement sexuel.
Puisque vous avez la parole, Marlène Baldeck, j'aimerais bien que vous nous disiez deux mots de cette affaire que vous avez portée en justice, qui concerne les femmes qui faisaient le ménage dans les trains à la gare du Nord, qui ont obtenu gain de cause en justice. Ça a été une lutte assez longue.
Bah oui, c'est j'arrive même plus à compter le nombre d'années, mais enfin c'est 5 ou 6 ans de travail, en fait. Hein. Ça le maître mot aussi dans ces dossiers, hein, c'est que ça se fait pas par magie, en fait. Hein. Il y a beaucoup de travail d'instruction, de recueil des pièces, d'élaboration d'une stratégie judiciaire et de recherche aussi des bons professionnels aussi pour intervenir à leur côté. La bonne avocate spécialisée dans ce type de contentieux qui va être d'accord pour se battre, y compris avec des clients et des clientes à l'aide juridictionnelle. Enfin bon, c'est pour toutes ces raisons-là que c'est compliqué aussi. Et voilà, donc ça, la victoire de ces femmes et d'un homme, hein, qui a tiré la sonnette d'alarme et qui l'a payé très cher parce qu'il a été licencié, donc de ces salariés de la gare du Nord, d'un sous-traitant de la SNCF, c'est un message très positif, surtout s'agissant d'un secteur, donc le secteur du nettoyage, qui est gangréné par les violences sexuelles dans le cadre du travail.
Et dans lequel les gens sont souvent en situation précaire, ce qui ne facilite pas les choses.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Sandune est en ligne de Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter.
Merci. Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il pouvait y avoir des victimes au sein des enfants qui font le témoignage de violences conjugales au sein de leur famille. Je voulais savoir comment est-ce que les enfants doivent réagir pendant les faits et aussi comment est-ce que, une fois que c'est terminé, une fois qu'on a trouvé une solution au niveau des séquelles, comment est-ce qu'on peut consulter, à qui il faut parler, comment est-ce qu'on doit réagir. C'était la question que je me posais.
Bien sûr, question très importante, Sandune. Luc Frémiot va vous répondre.
Oui, je veux surtout rebondir tout de suite sur les séquelles. On a fait des études actuellement qui démontrent qu'un nourrisson qui est exposé à des violences familiales, qui les subit pas, qui est exposé. On a fait des IRM de son cerveau. On s'est rendu compte que ces enfants sécrètent du cortisol, qui est une hormone en fait qui crée des pertes de substances de la matière encéphalique de la taille d'une pièce de 5 francs. Donc, ce type de choses, les violences sont également psychologiques et physiques. Donc, il n'y a qu'une seule façon de travailler. Il faut absolument saisir en urgence un juge pour enfants. Lorsque la sécurité d'un enfant est mise en cause, il faut bien évidemment saisir un juge pour enfants, lorsqu'on est dans des cas désespérés. Il y a aussi tout un travail à faire avec les juges aux affaires familiales, lorsqu'on est dans le contexte d'un divorce. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut pas être à la fois un mauvais père, c'est-à-dire un mauvais mari violent, et un bon père de famille. Il faut que les magistrats travaillent ensemble sur ce type de sujet, de manière à ce que les droits de visite, les droits d'hébergement soient encadrés. C'est pas possible de laisser, comment dire, des enfants qui vont servir à la fois d'otages aux parents dont cette lutte que mène en général l'agresseur contre son ex-compagne et lui livrer les enfants qui deviennent des petites victimes.
Luc Frémiot, question puisqu'on parle des cas d'urgence, là, on parle pour l'essentiel de violences intrafamiliales, vous avez fait un gros travail là-dessus. Où est-ce qu'on en est des téléphones grave danger hein, qui ont été mis en place dans un certain nombre d'endroits?
Alors écoutez, c'est un...
téléphone qu'on donne aux femmes hein, pour
oui,
appeler en
tout
urgence.
À fait, il vient d'avoir justement des appels d'offres qui ont été lancés par le ministère de la Justice pour les multiplier. Il y a eu un département pilote à l'époque, c'était la cour d'appel de Nancy, où c'était le procureur général, Monsieur Poiret, qui avait lancé ce dispositif. Ça fonctionne plutôt bien, le problème c'est qu'il n'y en a pas assez. Je sais que dans le Nord, par rapport à la masse de demandes, les chiffres sont pas suffisants. Donc il va falloir effectivement travailler sur le sujet.
Voilà, la question des moyens reste
essentielle. Ah oui, parce que là, ça coûte de l'argent, mais là, il faut absolument investir dans ce type de choses.
À tous les niveaux, et notamment pour vos associations, Marlène Baldec, comment vous faites face, vous?
Bah, en fait, on ne fait pas face, en fait. Pour tout dire, puisque comme je vous l'expliquais, donc on est obligé toute la journée à l'accueil téléphonique de la VFT d'expliquer aux femmes qu'on n'a pas les moyens matériels de répondre à toutes les demandes qu'elles formulent, qu'elles nous adressent. Donc c'est scandaleux politiquement, et puis je dois dire aussi que c'est très dur humainement pour les salariés de ces associations.
Sandrine Rousseau.
Je peux témoigner puisqu'on travaille en lien avec la VFT et que les femmes qui sont en liste d'attente pour la VFT ont des situations personnelles qui sont difficiles et souffrent énormément de devoir comme ça attendre sans avoir de délai. Donc il y a vraiment un enjeu à accompagner le mouvement de fond, encore une fois, de prise de parole des femmes et du coup de les accompagner par des moyens. Je voudrais dire aussi que dans la période actuelle, il y a quelque chose, et ça recoupe ce qu'on vient de dire, qui n'est pas très présent dans l'actualité et qui pourrait l'être davantage, c'est la question de la protection des victimes. Parce que les femmes qui dénoncent des faits de violence subissent en général des doubles ou triples peines. Elles perdent leur emploi, elles sont même menacées par leurs agresseurs, souvent personnellement. Elles ont des situations économiques extrêmement difficiles. Et pour l'instant, ce discours de protection de la victime, qui est absolument indispensable pour que vraiment libérer la parole, pour l'instant est à mon avis un peu trop absent de la période. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, mais c'est vraiment un appel là pour le coup que je lance. Il faut protéger les victimes.
Il est absent sauf à Douai. Hein.
Oui. La mise à l'écart de l'auteur est absolument déterminante. Je reviens toujours sur ce sujet-là. Celui-ci doit être écarté du domicile conjugal, familial, et faire l'objet d'un suivi, d'un contrôle judiciaire, d'un contrôle qui est exercé ou par le service du parquet ou par un juge d'instruction, de manière à pouvoir intervenir très rapidement. Moi, chaque victime qui passait entre les mains du parquet avait un numéro de téléphone d'un travailleur social qui lui était dédié. Et s'il y avait une difficulté, il téléphonait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il n'y avait pas de téléphone de grand danger à l'époque, et ça fonctionnait.
Alors moi, j'aimerais qu'on passe en revue quand même rapidement les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron il y a quelques jours, le 25 novembre, savoir si tout cela est réaliste ou pas. Par exemple, sur le harcèlement de rue, l'idée de la création d'un délit d'outrage sexiste qui pourrait être puni immédiatement, réaliste, souhaitable ou pas? Qui veut réagir? Marlène Baldec. C'est pas la priorité du moment.
Je crois que mon silence à votre micro est assez éloquent. Évidemment, les femmes doivent avoir des moyens de lutter contre les violences dont elles sont victimes, quel que soit l'espace dans lequel ces violences se produisent. Après, je crois que personne ne peut dire sérieusement que ce délit va faire l'objet de la moindre application. Enfin, on voit bien que c'est déjà tellement difficile d'obtenir des condamnations pour du harcèlement sexuel au travail, alors qu'on a un délit qui existe depuis 25 ans, qui a été entièrement réécrit, qui est opérationnel. Encore faut-il qu'il y ait une volonté, une vraie volonté politique aussi, de sanctionner ces violences. Donc là, on se passerait de magistrat, hein, dans le dispositif qui est préfiguré, puisqu'il s'agirait d'une amende qui serait infligée directement par des agents verbalisateurs. Mais
ça paraît difficile,
oui,
Luc Frémiot,
que vous en dites, vous aussi. Je partage un peu ce point de vue, ça me paraît extrêmement complexe. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on parle beaucoup de libérer la parole. Moi, je suis tout à fait d'accord pour libérer la parole, mais à condition que cette parole corresponde véritablement à des vrais états de détresse. Quand j'entends aujourd'hui, par exemple, qu'une jeune femme qui fait l'objet d'un sifflement dans la rue se manifester immédiatement, je crains que ça engorge les services, chargés de recevoir les plaintes, qui doivent malgré tout se consacrer en priorité aux véritables cas où leur intervention est nécessaire, c'est-à-dire les violences au quotidien, qui crée des dommages absolument incommensurables. Et c'est vrai sur le plan psychologique. Ça devient, à mon avis, un véritable problème, parce que on va saturer absolument les services d'accueil et les services en charge de ce type de choses.
Sandrine Rousseau, là, je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord.
Je ne partage pas complètement ce point de vue. Je comprends qu'il y ait, compte tenu aussi des moyens de la justice, une forme d'urgence et de tri qui se fasse. Mais pour le coup, au nom de ce tri-là, il y a beaucoup de plaintes qui sont classées, il y a beaucoup de plaintes qui sont non instruite, et je trouve que en matière de violence particulièrement, et en matière de violence sexuelle encore plus, on met beaucoup ça à l'arrière-plan, et justement au nom d'une forme d'urgence, alors que ce sont quand même des crimes et des délits qui ont un impact sur la vie des femmes non négligeable. Sur le harcèlement de rue, je trouve intéressant, moi, dans la loi, de dire que c'est interdit de harceler des femmes dans la rue. Je trouve le symbole intéressant. Après, les pays où ça a été appliqué montre que c'est en effet d'une efficacité difficile à mettre en place, parce que c'est difficile de faire du flagrant délit en permanence. Mais ceci dit, le fait d'affirmer que c'est interdit est quand même intéressant.
Marilyn Baldet.
En fait, je trouve que le problème, moi aussi je suis sensible, et je suis même sensible au symbole de la loi, y compris même quand elle ne trouve pas de débouché d'application directe.
C'est déjà important de rappeler qu'a priori...
Je suis sensible à la fonction déclarative de la loi pénale. Ceci étant, si la loi pénale n'est jamais appliquée, elle perd aussi de sa force. Donc il faut que ce soit les deux en même temps, puisque après c'est tout le dispositif pénal qui perd en légitimité.
On repart au standard de France Inter. Colline est en ligne de Marseille. Bonsoir Colline.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. Ben, moi c'était pour amener le grain de sel aussi par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire structure d'accueil un peu spécifique, comme on ferait pour une maternité ou pour ou un hôpital psychiatrique. Pourquoi ne pas avoir un service qui pourrait, dans l'utopie, hein, qui pourrait accueillir justement les gens, les femmes comme les hommes, puisqu'on a oublié de dire qu'il y a certains hommes aussi victimes chez eux. Voilà, moi, pour mon exemple perso, je me suis retrouvée face à un officier de police alors que mon ex était en garde à vue, donc l'après-midi même, qui m'a étranglée dans la cuisine. J'ai pu m'enfuir par la fenêtre, donc voilà, le défi c'était sauver sa peau et aller récupérer mon fils à l'école. Il est arrivé derrière moi et le directeur, donc, avait prévenu les policiers, m'a vu dans un sale état, très énervé, en pleurant. Et donc, évidemment, monsieur est parti en garde à vue. Et je me suis retrouvée un peu après ce moment-là, aussi dans les bureaux du commissariat, face à un officier de police, mais que j'avais envie d'exploser, de tuer, de ratatiner, parce qu'il m'a mis plus bas que terre. Poussé dans mes retranchements, à savoir est-ce que je mentais, est-ce que... Enfin, c'était particulier, quoi. C'était hyper violent. Donc je sortais de violence, mais 2 heures avant, et je me suis retrouvée dans une violence, mais c'était complète...
C'était pas la peine d'en rajouter, pourtant.
La suite. Et par contre, quand j'ai pu aller dans le couloir, je l'ai rencontré à l'extérieur, il fumait sa cigarette. Je suis allée, j'ai fait pareil, mais en tête à tête, en lui demandant, mais vous le faites exprès, vous avez envie que je vous gifle, ou qu'est-ce qui se passe? Voilà, il m'a dit que ça se passait comme ça, qu'on poussait un peu les gens à bout pour leur faire sortir de suite. Enfin, voilà. Donc là.
Donc expérience difficile, Colline. Je suis obligée de vous presser un petit peu pour que.
Voilà. Donc c'était pour dire ça. Pour quand on est face à un officier de police qui vous pousse à bout, c'est hyper difficile. Hein. J'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre. Voilà. J'aurais aimé parler avec quelqu'un d'autre à ce moment-là.
Merci, Colline, pour ce témoignage, Luc Frémion.
Oui, deux choses. Sur ce point, c'est des comportements inacceptables. Il faut absolument les signaler d'abord au commissaire central et ensuite au parquet. Un officier police judiciaire, effectivement, doit poser un certain nombre de questions de manière à s'assurer, effectivement, de la véracité des dires, mais sans remettre les gens en cause de manière brutale ou humiliante. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, sur la structure d'accueil, je voudrais en profiter pour parler d'une structure d'accueil qui existe aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye, qui s'appelle le Women Safe, qui a été mise sur pied par le docteur Pierre Foldès et sa directrice Frédéric Mars, qui reçoit les femmes qui ont fait l'objet de mutilations génitales, puisque Pierre Foldès est un chirurgien réparateur. Il a profité de cette notoriété et de cet accueil pour mettre sur pied également un centre d'écoute en matière de violence psychologique, de violence sur les enfants et de toute forme de violence physique. C'est donc une structure qui reçoit absolument tous les cas et qui est basée actuellement à Saint-Germain-en-Laye et qui est très très efficace.
Il est pratiquement 57, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table, que vous nous disiez chacun, quelle est pour vous la priorité absolue du moment pour lutter contre les violences faites aux femmes. Marilyn Baldeck, pour vous, à votre niveau
En deux mots, des moyens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants et plus importants que ceux qui ont été annoncés, et un travail législatif approfondi sur la notion de consentement sexuel. C'est au cœur du réacteur pénal des violences sexuelles et c'est vraiment indispensable que le législateur fasse un travail sur ce sujet.
C'est-à-dire, il faudrait
Mais il faudrait aujourd'hui pour prouver les infractions pénales, il faut démontrer la violence, menace, contrainte et surprise. Il faut une loi qui soit davantage axée sur la libre adhésion des individus, des hommes comme des femmes, aux activités, aux actes sexuels.
Sandrine Rousseau, la priorité pour vous aujourd'hui?
En effet, je pense qu'il y a un gros effort à faire du côté de la formation de tous les acteurs en matière de justice et d'accueil des femmes victimes de violences. Et moi, j'insisterai sur quelque chose qui n'est pas apparu là dans les missions, mais qui sont les expertises psychologiques.
On a beaucoup de questions à ce sujet.
Et donc, vraiment, moi, j'ai des témoignages effarants sur la manière dont certaines expertises psychologiques sont faites à charge contre les femmes. Et là-dessus, il y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et donc, c'est vraiment revisiter l'ensemble du processus judiciaire pour que les femmes arrêtent d'être en permanence supposées mentir, comploter ou je sais pas quoi. Et au contraire, passer à la bienveillance vis-à-vis des femmes qui font preuve de courage quand elles vont déposer plainte, rappelons-le.
Luc Frémiot, priorité c'est quoi?
La priorité c'est aussi l'éducation. L'éducation le plus tôt possible des enfants dès l'école. La deuxième priorité c'est la mobilisation sans faille des services de police et des services de la magistrature. Et je dois dire que depuis le 25 novembre, il y a une circulaire de Madame la Garde des Sceaux qui prévoit toute une série de mesures d'accompagnement et de contrôle de l'activité des parquets sur ce sujet. Et je crois que c'est très important qu'il y ait une volonté politique qui soit assurée et qui soit exécutée au niveau intervenant.
Vous-même, vous avez formé des jeunes magistrats, enfin des futurs magistrats à l'école nationale de la magistrature.
À l'école nationale de la magistrature, oui, tout à fait, en formation continue. C'est une formation qui existe encore.
Changer la loi, c'est pas forcément ça la
non,
priorité
je crois du, tout,
du
changer
moment.
Changer la loi. On pense qu'on peut tout résoudre avec la loi. C'est pas un problème de loi, c'est un problème de prise de conscience et de volonté politique.
Merci beaucoup Luc Frémiot, merci beaucoup Sandrine Rousseau,
merci.
Nom de votre association, Parler.
Et Marine. On a lancé un financement participatif, donc n'hésitez surtout pas.
Voilà, besoin de moyens, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail aussi a besoin d'argent. Marilyn Baldeck, on peut aller sur le site aussi de
Tout à fait, et par ailleurs,
de
c'est
votre
une,
association.
Il regorge d'informations sur le sujet.
Et mille merci à Luc Frémiot qui est resté avec nous et qui sort bientôt un nouveau livre. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront.